Sur le balcon de ma chambre, il y avait un pot de fleurs dont je ne m'étais jamais occupé. Et puis un jour, j'ai vu une plante qui sortait de là, et puis elle a poussé. Et jour après jour, je l'ai vue grandir, se ramifier, donner des fleurs.
CO2, mon amour.
Personne ne s'est occupé de cette plante. Personne ne la soigne. Visiblement, elle se débrouille parfaitement sans nous. Et c'est là que je suis devenu botaniste.
Denis Chessou.
Cette plante ne demandait rien à personne. Et l'année d'après, elle était entourée de toute sa descendance. Je me suis dit, mais c'est magique, ça.
Vous voyez, ça fait du bien quand même ces paroles de Francis Allais. À un moment, on ne sait même plus où respirer. L'air intérieur, c'est pas bon. L'air extérieur, c'est pas terrible non plus. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement. CO2 de mon amour qui essaye de rapprocher les hommes en se rapprochant de la nature. David Federman et Élise Christophe nous accompagnent à la technique. Je n'oublie pas Christian Buton et Camille Blanès et Lise Combe qui réalisent l'émission. Respirez à doucement, une fois sur deux. Oui, je sais, un nez, deux poumons, trois raisons de respirer 15 000 litres d'air par jour. Mais quand même, maintenant c'est comme la circulation, on fait poumon alterné. Ah ouais, on respire par un poumon puis l'autre. Non, pas les deux en même temps les enfants, je viens de vous le dire. La respiration alternée, c'est l'avenir de l'humanité. Oui, mais alors, pourquoi ça pique? Pourquoi est-ce qu'on doit aller tout le temps chez le docteur? Paris voilé, la tour Eiffel a mis son niqab de pollution, comme l'Île-de-France, Lyon, Grenoble, Lille, la vallée de l'Arve, bref, la routine. Avec son teint de fumeur, Paris asphyxié, Paris dieselisé, Paris embronchité, mais Paris, pas du tout libéré de ses addictions. Pourquoi je tousse, moi, dans ma poussette? Pourquoi les grands ne prennent pas leur vélo pour bouger? Alors que la moitié des déplacements automobiles en moyenne, ça se fait sur 3 km. Eh bien, parce que les grands en France ont une voiture et qu'ils roulent souvent seuls dedans. Ah, mais c'est comme ça, hein? Quand on est grand, on s'endette et on a une bagnole. Sur le pas de sa boutique, discrètement, le monsieur des pompes funèbres était bien content. CO2 et particules mon amour étaient ses alliés. Éole en chômage technique, cheminée, voiture, poussière, agriculture, cochon couvé, un vrai bonheur. Quand je pense que les gens vont se souhaiter bonne santé le 31 décembre et qu'ils ne font rien le reste de l'année, se dit-il. Les oiseaux, eux, étaient partis. Ils avaient quitté le ciel de Paris. D'autres avaient dépassé le plafond de soupe jaunâtre qui repeignait la ville. Pékin, Shanghai, regardaient Paris, intéressés par les efforts de ces pics de pollution. Paris voudrait-elle concurrencer? Un jour, leur ressembler? Non. Heureusement, il y a de la marge, nous on n'a plus de charbon. La girafe du zoo, elle, pensait à... moi, comme girafe, j'ai un peu plus de chance parce que je respire quelques mètres plus haut. Et pourtant, cette semaine, je viens d'apprendre ce malheur. Je suis en voie d'extinction, car on tue et ratiboise le territoire de mes sœurs. Allô, allô le vent s'il vous plaît, allô, dites-moi, est-ce que vous ne pourriez pas... Je vous coupe tout de suite, on ne me commande pas monsieur. Bien sûr je vais me remettre au boulot et je chasserai vos miasmes. Alors vous dites 10 fois au-dessus des normes, mais continuez à faire des normes et à surtout ne pas parler d'écologie dans vos primaires et dépasser les bornes. Je tirerai la chasse d'air comme on tire une chasse d'eau. Mais le responsable, vous le savez, c'est pas moi. Le ciel, les rivières et ses poissons, les océans ne sont pas vos paillassons. Je soufflerai et sortirai ma tramontane, oui, mon mistral, ma burle, mon nord-est, mon autant en emporte vos errements, quand j'en aurai envie. Vos bronches, allergies, crise cardiaque et mort par centaines de milliers en Europe, ne les mettez pas sur mon dos. Vous ne savez pas vous limiter. Les excès en tout genre, vous adorez. Mais, ne pleurez pas, il y a des bonnes nouvelles. Un jour, l'air en bonbonne, vous allez bien le monnayer, pas vrai? Le Père Noël, lui, avait compris. Il savait quel cadeau offrir avant tout le monde. Demain, il aurait équipé de filtres à particules le museau de ses rennes, de son traîneau d'espoir. Sinon, du retard, il risquerait d'y avoir à la livraison le 24 décembre au soir. « Alors au menu, donc besoin de respirer un tout petit peu autre chose, on s'en doute bien, et bien ça sentira le pain des Landes et la résine. Et puis de l'air pur toujours avec un peu de sapin du Morvan, 30% de la production des sapins de Noël dans le Morvan. On retrouvera d'ailleurs aussi la voix de Jean-Marie Pell qui nous parlera donc de cet arbre. Et puis il y aura une hotte avec un bouquet garni avec des jeux, des livres, des CD, du saumon, oui. Mais pour commencer quand même l'actualité de la biodiversité avec Alain Le Bon Grain du Bourg. Bonjour à vous Alain.
Bonjour Denis Chessou.
Alors demain matin, évidemment, avec Patricia Martin.
Hein, oui, donc comme tous les dimanches matin.
7h50. Voilà. Et retour quand même de Cancun du Mexique avec cette COP 13 concernant la biodiversité. Est-ce qu'on saute de joie ?
Un petit décalage horaire, mais surtout un décalage moral, j'ai envie de dire, dans la mesure où à la fois j'ai été bouleversé de voir 196 pays, quand même les plus grands et les plus modestes, dire à l'unisson qu'ils faisaient le maximum pour sauver la biodiversité, et puis dans le même temps, un déclin de la biodiversité comme on n'a jamais connu. Les derniers chiffres montrent actuellement que 11% des espèces d'oiseaux sont directement touchées, mais il y a également les batraciens qui sont les plus accablés. On va prendre l'Uicène qui cette semaine encore nous indique qu'une girafe sur trois disparaît aujourd'hui. Voilà le plus grand animal de la planète, près de 5 mètres de haut. Eh ben, on trouve le moyen de le désinguer lui aussi. Alors c'est désespérant. Et l'idée de ces grandes conventions mondiales...
Dont on a très peu parlé, hein, celle-là.
C'est incroyable, heureusement qu'il y a CO2, et puis ma petite chronique également dimanche matin. Mais c'est effrayant. Ouais. Autant il y a une prise de conscience pour la question climatique, autant sur la biodiversité, on a le sentiment que les espèces peuvent s'éteindre, et en dehors des abeilles, ça n'affecte absolument pas nos consciences. On ne réalise pas qu'on est vraiment dépendant de ce vivant.
Alors d'ailleurs, il y a le président mexicain dans son allocution qui a une très jolie phrase.
Très jolie phrase. Il dit soit nous ne changeons pas notre mode de vie pour sauver la biodiversité, soit la perte de la biodiversité changera notre mode de vie. Alors, il y a ce qu'on appelle les objectifs d'Aichi.
Donc c'était au Japon.
C'était en 2010. Hein, c'était la conférence sur la biodiversité de Nagoya. L'objectif, globalement, c'était de modifier les choses, notamment dans les subventions qui sont préjudiciables à la biodiversité. Donc, les abolir, gérer les ressources halieutiques, le poisson, la pêche, les espèces exotiques, envahissantes, etc. Globalement, stopper le déclin, eh bien, on voit que sur les 20 objectifs d'Aichi, seuls 4 sont en passe d'être atteints, alors qu'on devrait les atteindre d'ici 2020, dans 4 ans. Bon, je suis pas enthousiaste hein, pour cette fin d'année, c'est un peu triste comme cadeau de Noël.
Alors, il y a eu des petites choses très positives, là, cette fois-ci, en France, avec les chers ortolans. Donc ça, évidemment, c'est un trafic du côté des Landes, on adore ça, on vend ça 100 euros la bestiole. Bon, et quand
parfois
même, évidemment,
plus,
et parfois plus.
Alors, la LPO, qui est sur le terrain avec quelques autres depuis près de 3 décennies, quand même, qu'on dénonce cette situation, fait retourner...
Avec la bénédiction des politiques locaux, hein, disons.
Ah ben voilà, il y a une tolérance. C'est très clairement affiché, notamment par les députés, les sénateurs, le ministère de l'écologie qui dit non, mais qui laisse faire. Et on était obligé de se retourner vers Bruxelles. Et cette semaine, eh bien, la Commission européenne s'est retournée vers le tribunal. Et la France va passer devant les tribunaux. Elle pourrait être condamnée à 90 millions d'euros si elle ne met pas fin à cette pratique. Et pourquoi finalement l'Europe s'empare de cette affaire ? Bah, tout simplement parce que les ortolans n'appartiennent pas qu'à la France. Voilà, comme beaucoup d'autres migrateurs, ils traversent notre pays et il n'y a pas de raison qu'en certains lieux on mette tout en œuvre pour les protéger et qu'en France on en prélève plusieurs dizaines de milliers chaque année.
Nous partons dans l'estuaire de la Loire, nous allons à Donge-Est. Rappelez-vous, il y avait eu donc une fuite de Total, c'était en 2008. Où en est-on Alain ?
Ben, il y avait près de 700 tonnes de fioul qui s'étaient répandues jusque vers l'île de Ré. Et évidemment, la LPO s'est portée partie civile à demander le préjudice écologique. Donc on a obtenu un préjudice moral et matériel, mais un refus du préjudice écologique. Or ça, on ne l'a pas admis. Alors on était en appel et on vient d'aller en cassation. Et j'ai le bonheur de vous dire qu'on a gagné en cassation. Donc je trouve ça quand même intéressant, d'autant que ce préjudice écologique a été revisité par la loi sur la biodiversité et qu'à la limite, les associations n'y avaient plus directement accès. Eh bien, on voit que quand les associations s'investissent, elles peuvent bénéficier très légitimement de ce préjudice. C'est une bonne chose.
Donc soutenez les associations, c'est une des actions que vous pouvez faire absolument au quotidien. J'aimerais, Alain, que l'on termine par ce qu'a dit l'Union européenne donc à Cancun.
Tout simplement, nous réitérons l'importance du principe de précaution.
Ah.
Et quand j'ai entendu ça devant 196 pays au Mexique, je me suis dit, j'espère qu'il y aura un peu d'écho qui passera ici en France, puisqu'on a l'intention
De le désinguer.
Voilà, de le désinguer, ce qui est une folie furieuse. Le principe de précaution n'interdit pas le progrès. Il dit simplement, si jamais il y a des difficultés, essayons de trouver le bon chemin. C'est la moindre des choses.
Merci cher Alain, et à demain matin.
Merci Denis.
Et dans quelques instants, je vous l'ai dit, on va respirer grand air, on va respirer au milieu des pins, ouais, dans les landes et parler de résine de gémage. Des ponts qui brûlent, Burning Bridge, c'était Patrice, qui est allemand d'ailleurs, sur France Inter, choisi par Muriel Pérez, notre programmatrice. Allez, un peu de calme maintenant, je vous l'ai dit, on va respirer. On va respirer quoi? L'air des Landes. Oh la belle forêt, assez éclaircie quand même, où sommes-nous là?
Là, on est sur la parcelle 40 de la commune de Saint-Vincent-de-Paul. Donc, ce sont des pins de 50 à 60 ans. Un petit peu clairsemé par rapport à la normale, puisque bon, la tempête a fait quelques dégâts. Mais on reste quand même sur une densité qui est quand même intéressante, puisqu'on doit être aux alentours de 125 à 130 arbres à l'hectare.
Alors, il y a la douceur, Alain Delmas, aussi du sol, évidemment, qu'il est... Il est presque mou, il est onctueux. Quoi. Il est...
Oui, mais c'est un sol très sablonneux.
Et, oui.
Et c'est pour ça que les pins d'ailleurs s'y sentent bien.
On va pouvoir respirer sans risque. Moi j'ai un peu quand même de la peine, j'ai un peu pitié de vos poumons humités, hein, en Ile-de-France et ailleurs, enfin et aussi les miens. Et on va aller au milieu des pins qui d'ailleurs effectivement nous envoient des ions négatifs. Et ces ions négatifs, ils sont très positifs pour nous parce qu'ils nous dynamisent, ils nous apaisent. Ce sont donc ceux des pins des Landes, donc des pins maritimes d'ailleurs. Ce sont des arbres, on va dire, qui sont peu fournis, mais élégants, croissance rapide. Et on va parler de GEM. Alors GEM et de l'association GEM, G-E-2-M-E, GEM, la forêt d'Aquitaine. Alors la GEM en gascon, c'est la résine qui est naturelle. naturelle. Vous savez, on faisait une petite incision dans le pin pour blesser le bois, mais sans attaquer donc l'arbre, et puis donc ça coulait après dans des petits pots qui étaient cramponnés au fût. Là où est-ce qu'on est? On est du côté de Saint-Vincent-de-Paul, hein. Ben oui, c'est aussi une commune. Bon, c'était un garçon qui, je crois, au XVIe siècle, gardait ses moutons. Alors lui, il a pas eu de voix. Enfin, il n'en a pas entendu. Et c'était un gars qui a lutté contre la misère, mais toute sa vie, il reviendrait 5 siècles après, il serait complètement affolé. C'était un peu le précurseur des œuvres sociales. Ça, c'est pour vous situer le lieu dans la forêt de Saint-Vincent-de-Paul. Et nous sommes avec Alain Delmas et Cyril Fournet, donc à la tête de l'association J'aime la forêt d'Aquitaine, et vous allez comprendre quelle est leur passion de vouloir remettre en mouvement donc cette fameuse résine, cette fameuse J'aime. On y va.
On sait qu'à l'Antiquité, il y avait déjà des produits résineux, puisqu'on faisait du goudron pour calfater
les bateaux.
Oui. Et donc, des produits étaient faits ici, et puis ils partaient à Rome, en Grèce, etc. Donc depuis cette époque-là, il y avait donc des résineux. Au XVIe siècle, on voit apparaître déjà des plantations. Donc il y en a qui récupèrent des graines de pin qui sont dans les pins, et ils commencent à planter un peu. Donc cette idée commence à germer, mais doucement.
C'est ça.
Et après, ça prendra l'essor à partir de Napoléon III. Ils voulaient en faire un lieu pour faire en sorte que ces soldats fatigués puissent venir se reposer. Donc en 1857, il dit « je vais faire quelque chose pour ici ». Alors il a pondu une loi très rapidement, qui consistait à dire aux communes qui étaient propriétaires de la lande où vous vendez, où vous plantez. Donc ce qui s'est passé, c'est que les plus malins, ils ont vendu, mais ils ont gardé une petite partie quand même. Oui. Et donc maintenant, ils ont de belles forêts, puisque ça s'est régénéré tout au fur et à mesure. Et puis il y en a certains qui ont fait des affaires formidables, quoi.
Mais c'était oui. Une espèce de privatisation, non?
Ça a été la plus grande privatisation d'un bien collectif. 1 million d'hectares a été privatisé à l'époque. Et aujourd'hui, il y a encore des grandes familles qui vivent sur cette privatisation. En sachant que 95% de la forêt est toujours privée. Ouais. Hop.
Ah, dites donc là. Là, on arrive sur un petit fossé. Et ça veut dire qu'on a quand même aussi une végétation donc spécifique. Il faut faire évidemment attention là.
Oui, ce qui montre qu'il y a une biodiversité dans cette forêt qui est importante.
Donc de la bruyère, ça on en a, hein, c'est quand même le territoire. De la jonc aussi, bien sûr.
De la jonc, de la fougère.
Bah oui, qu'il y a des bestioles. Bon, oui, puis ça doit... Oh, bah, mouf ! Allez, hop, une grenouille. 2 grenouilles. Ah bon, il doit y en avoir plus. Puis il y a quand même la qualité de l'air, évidemment, qui vient de l'ouest. Et après, qui est filtrée par ces pins. C'est une qualité extraordinaire.
Ah bah ça. Oui, ça c'est... Quand on parle de... des enjeux environnementaux, du rôle des forêts. On a quand même un poumon ici qui est très important.
Alors Alain Delmas, là, on se pose devant un tronc superbe. Ah oui. Et alors, en fait, on va parler évidemment du gemmage. Ce qu'on appelle la gemme, alors on a peut-être cette image de ces petits pots où la résine coule et puis on récupérait la résine. Qu'est-ce que l'on fait d'abord de cette gemme?
La gemme, elle est distillée une fois qu'elle est récoltée. Et à partir de la distillation, on va produire de l'essence de térébenthine et de la colophane.
Qui servent à quoi donc?
Alors, l'essence de térébenthine, on la retrouve dans des huiles essentielles, ouais. Dans des procédés divers et variés à partir des molécules. Parce que l'essence de térébenthine a des molécules très intéressantes. Mm-hmm. Hein. Et la colophane, on va la retrouver dans les vernis, dans les peintures, dans les lessives.
Même dans les chewing-gums.
Dans les chewing-gums. Il y a à peu près plus de 200 dérivés de l'utilisation de la gemme. Ouais. Et puis dans les produits quotidiens, quoi.
Alors, voilà. Le grand producteur, évidemment, c'est la Chine. Hein, c'est le Brésil.
Premier, voilà,
oui. Et bah, la France, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas du tout les mêmes proportions, quoi.
Non, la France ne produit plus.
Cyril, le fondement de la démarche, au-delà d'aimer la gemme, d'aimer évidemment cette forêt des Landes, qu'est-ce que c'est?
Mais c'est une certaine réalité et puis une certaine cohérence, à savoir que le modèle économique qu'on a essayé d'établir, c'est un modèle viable. Parce que bon, vous imaginez le nombre de gens qui ont été dubitatifs sur notre démarche, parce qu'on a connu un échec sur le sujet dans les années 90. Donc c'est difficile de repartir quand il y a eu un échec.
Et là, parce qu'on est en France, on serait aux États-Unis, ça ne poserait aucun problème.
Là, on s'est dit, bon, on va essayer de voir ce qui s'est passé ailleurs, notamment en Espagne, où eux, ils n'ont jamais lâché l'affaire, et ils sont en progression constante. On n'allait pas pouvoir les copier sur la façon dont ils procèdent, parce que bon, eux, ils acceptent d'avoir des niveaux de salaire qui sont vraiment très bas. Ils travaillent sur 8 mois, donc on s'est dit, on sait qu'on peut avoir beaucoup de rendement à une certaine époque. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a raccourci notre temps d'activité et aujourd'hui, on peut dire qu'on est sur un modèle économique de 3 à 4 mois d'activité. D'accord. De gemmage. et avec une production qui sera sensiblement égale aux Espagnols. Donc ce qui nous fait dire que c'est vraiment une affaire qui tient la route.
Alors pour vous Eric Fournet, donc, qu'est-ce qui vous plaît dans cette gemme? Pourquoi vous avez envie de remettre ça donc en mouvement?
Nous on est animés de bon sens. Et le bon sens voudrait que quand on a un produit sur place, eh bien on l'utilise plutôt que de le faire venir par bateau de Chine ou d'ailleurs.
Ah, vous n'êtes pas dans la mondialisation. Il faut qu'un produit fasse trois fois le tour de la Terre avant d'arriver sur votre assiette, sur votre bureau.
Je comprends bien que ça peut faire vivre du monde cette histoire, mais plus sérieusement, le bon sens aujourd'hui est de rigueur, et notamment pour toutes les richesses qu'on a sur le territoire français ou européen. Et quand on voit que on pourrait être autosuffisant pour notre propre consommation sur toute l'utilisation qu'on peut faire de la colophane de gemme et de la térébenthine, c'est quand même dommage. Alors après, bon, nous, on s'y est davantage intéressé parce que on sait que la problématique, elle est toujours économique. Il faut la remettre à l'ordre du jour parce que le prix de la gemme a évolué aujourd'hui.
Ah ben c'était très volatile, c'est-à-dire que lorsque les Chinois en produisaient beaucoup, c'était pas très tellement cher, puis maintenant ils s'en servent pour leur marché intérieur, et donc on arrive à dépasser donc 1000 euros la tonne, c'est ça?
Ah oui, juste plus 300, 1700.
Ouais, elle a flambé jusqu'à 2300 euros la tonne, et actuellement elle est à 1400, 1450 euros la tonne.
Ouais. Donc ça peut intéresser peut-être davantage maintenant des entreprises locales ou...
Oui, on va pas s'aligner sur les Chinois ou sur le Brésil, on va pas faire concurrence avec ces pays-là. Nous, ce qu'on veut, c'est développer la gemme du troisième type avec des femmes et des hommes en forêt, avec un cursus de formation, etc. Et ce qu'on veut, c'est que quand on parle d'économie, on ne mette pas l'économie uniquement l'économie pure, mais qu'on intègre dedans d'autres critères. C'est les critères sociaux, les critères environnementaux. Oui. Tout ça, il faut qu'on le chiffre dans le coût. Et c'est des retours pour la société. Donc, ces femmes et des hommes, il faudra que ce soit des techniciens vraiment tip-top de la biodiversité en forêt, qui puisse regarder l'évolution de la forêt, des différentes flores qu'il peut y avoir. Enfin voilà, c'est vraiment autre chose. Et puis en même temps, en termes de prévention par rapport au feu d'incendie, on a des outils. Donc ça, c'est une dimension environnementale et sociale, parce qu'il y a du boulot derrière. Et quand on parle de boulot, nous, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse à la fois au cursus de formation, parce que c'est un métier. Il faut apprendre comment fonctionne le pain. Oui. Il faut apprendre aussi comment on va utiliser les nouveaux matériels d'extraction, hein, puisqu'il y a des brevets qui sont déposés. Et on a besoin de développer des emplois dans les territoires.
Aujourd'hui, cette forêt landaise, on reprend un peu de recul. On lui demande de fournir alors de la pâte à papier, de la cellulose, du bois énergie. Puis bon, alors, l'essence dans une moindre mesure, bien évidemment. Est-ce que tout ceci peut tenir?
Enfin, on a suffisamment d'éléments. Il y a des études de la DRAF,
Direction régionale de l'agriculture
et de la forêt, qui ont répertorié le niveau de la ressource, parce que c'est une question qui s'est posée suite à la tempête Klaus. Il y a eu un peu une surdemande, puisque on avait beaucoup de chablis.
Au sol.
Aujourd'hui, on sait que par rapport à ces études, si on gère ça correctement, on sait qu'il y en aura pour tout le monde. Il y a de la matière pour tout le monde. Et
qui peut arbitrer? En fait, aujourd'hui, c'est le marché quand même.
Mais le problème, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a du bois pour tout le monde, mais qu'on va rentrer dans des conflits d'usage qui vont être générés par le marché. Donc à partir de là, par exemple, les papetiers vont acheter des bois plus cher qu'ils ne le valent, et donc ça sera autant de bois en moins, par exemple, pour la construction, puisque pour faire du papier, on n'a pas besoin de bois de 50-60 ans. Hein. Si on veut aller vers la notion d'éco-construction, on a besoin de bois d'œuvre. Oui. Ce bois, il est là.
Il y a quand même un problème.
Ah oui,
un problème. Donc ça veut dire qu'en papeterie, aujourd'hui, on fait rentrer du bois d'œuvre pour faire du papier de papeterie.
Que ce soit du tronc qui rentre ou bien du houppier, c'est pareil.
Des petits fûts ou des gros fûts, aujourd'hui, ils sont au même prix l'un et l'autre. Ouais. Bon, ça, c'est une conséquence de la tempête Klaus. Donc il faut revenir à quelque chose de plus cohérent. Bon, le bois d'œuvre, il doit avoir une utilisation qui est beaucoup plus noble que la papeterie.
Il y a 90% de la forêt qui est privée. Il y a quelques gros propriétaires qui détiennent une majorité quand même cette forêt. Mais après, il y a tout un tas de petits propriétaires qui ont 3, 4 hectares. Alors avant, ils faisaient une coupe, ça payait le tracteur ou ça payait le mariage pour le fils ou la... Sauf qu'aujourd'hui, comme le bois n'est plus payé à sa juste valeur, beaucoup arrêtent d'entretenir la forêt. Et donc certains sautent dessus pour acheter, parce que vous savez, la forêt, quand même, il y a une fiscalité qui est assez intéressante. Hein. Oui. Donc il y a certaines agences qui font le tour pour acheter des forêts et puis défiscaliser. Donc ceux qui défiscalisent, ce n'est pas les smicards ou les gemmeurs de demain.
Est-ce qu'ici c'est un territoire de rêverie lorsque l'on marche
Mais oui, votre esprit est déporté là quand on marche dans la forêt. Les bruits, le vent dans les fougères qui passent dans les pins qui se balancent en haut comme ça, regardez, avec le ciel. Alors quand il est bleu, c'est autre chose.
Mais
c'est
il est bleu.
Mais on est ailleurs. Moi, je vais dans mon village, je vais en forêt et je me dis, mais franchement, on se prend la tronche, il y a des fois, enfin, tu vois, on se ressource.
Quelque part, il y a aussi un peu de nostalgie parce que je me rappelle quand j'étais petit, des pots qu'il y avait en forêt, je trouvais ça extraordinaire. Ouais, c'est-à-dire que les gens qui y travaillaient, même si c'était un travail difficile, ils étaient très contents d'y travailler. Alors aujourd'hui, se dire qu'on va à nouveau utiliser cette ressource, cette richesse qu'on a sur place, vous imaginez pas la motivation des gens de l'association.
Cyril Fournet et Alain Delmas de l'association J'aime la forêt d'Aquitaine. Vous avez tous les éléments sur le site de CO2 Mon Amour. Et il y a déjà donc des jeunes formés au lycée professionnel du bois de Sabre et aussi au lycée Haroun Tazieff de Dax, donc sur ce thème. Et c'est intéressant de se dire que là aussi, bah on marie à la fois l'environnement, l'économique, le social, et si ça peut fonctionner, ce serait formidable. Mais voilà, donc porté par des gens qui ont un rêve et après, bah ils le mettent en mouvement pour arriver à quelque chose de positif. Merci à Lisco, réalisatrice, et puis aussi à Elnor Cochet pour le mixage de ce reportage. Et alors, du pain au sapin, eh ben, il y a que quelques épines de différence. Et on va retrouver la voix d'un homme que l'on aime. Les premiers Noëls, c'était du côté de 335, hein. C'était ça, le solstice d'hiver, la lumière qui commence à remonter dans le ciel. Alors, Jean-Marie Pelt nous avait parlé de l'IF aussi, comme arbre de cette période-là. Mais là, avec Jean-Marie, ben, on va parler du sapin de Noël qui est aussi un épicéa. Et ça commençait très souvent par un bonjour Jean-Marie.
Bonjour Denis, bonjour à tous. Oui, alors le sapin, c'est l'arbre qui va être choisi par les Celtes pour le premier mois de l'année. Et alors, cet arbre, ce n'est pas un sapin, c'est un épicéa. Alors, vous me direz, mais quelle est donc la différence entre un sapin et un épicéa? Elle est très importante. D'abord, dans le sapin, les pommes sont dressées. Et dans l'épicéa, les pommes sont pendantes. C'est la première différence. Deuxième différence, dans l'épicéa, les aiguilles sont pointues. Et dans le sapin, elles sont un petit peu aplaties. Troisième différence, dans le sapin, les aiguilles sont toutes dans le même plan, tandis que dans l'épicéa, elles tournent autour du petit rameau qui les porte. Donc ce sont des arbres qui sont assez différents, mais seulement quand on regarde bien. Parce que leur port, leur stature, elle est très ressemblante. Et en réalité, nos sapins de Noël sont pratiquement toujours des épicéas. Et on devrait dire donc l'épicéa de Noël. Mais bon, on pourrait plus chanter non. Mon beau sapin. vous voyez, chanter mon bel épicéa.
Non, ça marche pas.
Alors,
pourquoi il devient en fait, pourquoi on le décore, on lui met de la lumière justement pour fêter?
Parce que c'est l'obscurité. La tradition nous vient des pays scandinaves où la nuit est très très longue, puisqu'à cette période il fait jour 3 ou 4 heures déjà au centre de la Suède. Alors il faut de la lumière et on va donc décorer des épicéas en y mettant des bougies. Et c'est la fête de la lumière.
Donc nos amis suédois prennent à la fois du millepertuis, ce qui leur fait le plus grand bien pour lutter contre les dépressions saisonnières comme en Allemagne aussi.
Oui.
Et ils allument leur sapin, ce qui leur envoie une autre forme de lumière.
Tout à fait. Et la tradition passe ensuite en Allemagne. Et la tradition passe de l'Allemagne en Alsace-Lorraine quand l'Alsace-Lorraine est annexée en 1870.
Vous n'étiez pas né, hein.
Non, mon grand-père si. Voilà. Et à ce moment-là, les Alsaciens lorrains, qui sont entêtés et qui veulent rester français, vous savez bien que nous sommes plus français que les Français, voilà. Eh bien, on fait passer la tradition dans le reste de notre pays. Et c'est comme ça que le sapin de Noël s'est imposé, mais il y a 150 ans, c'est même pas, c'est récent. Au Moyen-Âge, on ne faisait pas de sapin de Noël. Et puis ensuite, le sapin de Noël est apparu dans les rues des villes et sur les places des villes. Et la première fois qu'on a mis un très très grand sapin sur une place d'une ville, ça s'est s'est passé en 1912 à Boston, et à partir de la Deuxième Guerre mondiale, toutes les villes ont commencé à mettre des sapins partout, à s'illuminer partout, mais ça aussi, c'est très récent tout ça.
Et le 24 décembre, on retrouvera un reportage, je ne sais pas encore lequel, hein, mais avec Jean-Marie Pelt dans son jardin. Alors, l'actualité, bah évidemment, c'est le sapin de Noël, donc vous allez vous dire, alors on peut le faire soi-même, prenez un balai, des feuilles en plastique, des anciens pulls de couleur verte, il vous fait 10 ans, bon, mais en même temps, les faits sont là, on aime bien avoir cette odeur, on aime bien avoir ce symbole à la maison. Donc pour faire un petit point, bonjour à vous Vincent, oui, parce que vous êtes un des responsables de l'association française de sapins de Noël naturel, et on va aller dans ce lieu, bah, qui est très beau, qui est le massif du Morvan, donc on n'est pas très loin de Paris, hein, on est à peu près à 230 km, si vous connaissez le coin, c'est Carré-les-Tombes, c'est l'Orme, c'est Saint-Brisson, vous avez le parc naturel régional, avec ce sapin donc Norman, on va dire, qui est un petit peu le leader d'affaires, donc s'il vous plaît, Vincent, oui, faites-nous un petit point.
Oui, bonjour Denis. Alors le Morvan est la première région productrice de France, mais ils sont produits aussi en Bretagne, et en troisième position on trouve la région Rhône-Alpes avec les contreforts du massif alpin, Isère-Savoie, et aussi les monts du Forêt en massif central.
5,5 millions, on va dire, de sapins vendus en moyenne, 30% donc c'est
dans le Morvan, mais 80% des sapins de Noël qui sont vendus en France sont français.
Et alors là, vous incitez d'ailleurs aussi les producteurs à l'indiquer, ça.
On incite vraiment nos producteurs de notre association à indiquer sur leurs étiquettes leur nom, etc., pour que le consommateur puisse faire un achat éclairé, essayer de privilégier un sapin français ou pas loin de chez lui, etc.
Combien vous avez de producteurs aujourd'hui dans le Morvan ?
Dans le Morvan, il y a une centaine de producteurs de sapins de Noël. Mmh. Il y en a à peu près 800 en France. Et dans notre association, on est à peu près 120.
Alors, en ce qui concerne le bio, je crois qu'on en a un seul qui se trouve en Ariège.
Oui, c'est ça, Michel Villiers, France Sapin Bio, qui est le seul producteur aujourd'hui à bénéficier du label agriculture biologique pour des sapins de Noël.
Alors, comment ça se passe? Parce que, évidemment, on utilise aussi des pesticides, mais quand même, vos producteurs sont sensibilisés.
Oui, tout à fait. Et puis, c'est une demande sociétale d'aller vers une production, on va dire, plus respectueuse. Donc, d'autres démarches que le bio sont en train de naître. Un certain nombre de nos adhérents, par exemple, sont éco-certifiés avec la certification Plante Bleue, issue du Grenelle de l'Environnement, qui est une certification des exploitations horticoles, qui est poussée par Valor, qui est l'interprofession horticole, mais aussi des certifications comme MPS, par exemple, qui est une certification d'origine hollandaise, mais que vous pouvez aussi retrouver sur des roses, par exemple.
Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est surtout une démarche de progrès, donc c'est-à-dire que les producteurs sont contrôlés par des organismes extérieurs comme Certipac, EcoCert ou autres, et ils s'engagent dans tout ce qui est gestion des déchets, essayer de réduire le nombre d'intrants, aussi bien pour les engrais, l'arrosage, les pesticides, etc.
Et on utilise aussi la lutte biologique, hein, contre les ravageurs.
Tout à fait, donc là on est dans un système ouvert, on n'est pas comme dans des serres, mais on peut jouer sur tout ce qui est auxiliaire, en essayant de favoriser les chrysopes, les coccinelles et autres. En sapin de Noël, on essaye de déclencher les traitements quand vraiment on est débordé, mais la plupart du temps, les auxiliaires font le travail.
Il faut combien de temps pour pousser à 1,50 m, on va dire ?
Bah, il faut une dizaine d'années en partant de la graine. Il y a déjà 4 ans en pépinière entre la graine et puis le petit plan que va acheter le producteur de sapin de Noël qui fera 20 cm. Et après, donc, il faut environ 3-4 ans pour sortir les premières tailles de commercialisation, 80 cm, 1 mètre. Et pour un arbre d'1,50 m, au final, il s'est écoulé une bonne dizaine d'années.
Et alors, principalement, c'est du Nordman. Quel est le lien entre la Géorgie et le Nordman ?
Tout simplement, les graines qui servent pour la production du sapin de Noël Norman en France proviennent de, justement, Géorgie, Caucase russe, toute cette région de l'Ossétie, Tchétchénie, Abkhazie, voilà.
Puisque l'on fait un petit focus sur le Morvan, en fait, pourquoi cette terre, j'allais dire, convient bien ? Nous sommes quand même sur un massif granitique, qui est donc assez pauvre, et pourquoi il se plaît bien chez vous ?
Ben justement, parce que la plupart des espèces qui sont cultivées pour faire du sapin de Noël demandent des terres acides, donc avec des pH autour de 5-6. Donc ça convient bien justement sur ces terrains acides du Morvan. Il faut aussi une pluviométrie qui soit un petit peu conséquente. Et donc c'est le cas dans le Morvan où il tombe facilement 1000 mètres d'eau.
C'est un massif assez vert, faut le dire. Hein, donc,
voilà, c'est ça.
Et alors le recyclage se fait par les municipalités, c'est-à-dire que lorsque l'on va déposer aujourd'hui son sapin dans un bac qui est dédié, ou bien lorsqu'il y a une tournée pour les récupérer, ensuite ça devient quoi? Du broyat? Qu'est-ce que ça devient?
Il y a plusieurs filières. Certaines communes, ça termine dans les déchets verts, donc c'est broyé, ça va faire du compost. D'autres fois, ça rejoint tout ce qui est bois énergie. Donc ça peut être broyé et rejoindre ce qu'on appelle les plaquettes forestières pour des chaufferies bois éventuellement.
Voilà. Et en ce qui concerne donc le pied hein, dans lequel est planté le sapin, il est issu de troncs, on va dire, de deuxième catégorie. Ça, vous avez des trembles, du bouleau, du bois blanc ou du résineux. Bon, et ben écoutez, on va poursuivre dans quelques instants. On va ouvrir notre hotte de Noël. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Surprise. Bon, déjà, on va mettre Chivari. Hein? C'est pas mal, ça aussi? Oui.
There's a nail in the door, and there's glass on the lawn. Tacks on the floor, and the TV is on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed, and a phone in my hand. A dog on the floor, and some cash on the nightstand.
Chivari sur France Inter, dans CO2 Mon Amour, Good Night Moon, bonne nuit la lune, et bientôt sous la lune, qu'est-ce qu'il y aura? Bah, peut-être des clochettes, tiens, tenez.
CO2 Mon Amour, Denis Chessou sur France Inter.
Ah, c'était pas mignon, ça va bien sûr. Allez, notre hôte de Noël avec des rennes nourries avec des OGM bio. Bon, alors, nous allons... Qu'est-ce que nous avons? Ah oui, tenez, Bioviva, ça vous dit quelque chose? En fait, c'est un éditeur de jeux éco-conçu et qui vient de fêter ses 20 ans. Donc, on va rejoindre Jean-Thierry Winstel, qui est le créateur de Bioviva. Et dites-nous, donc, 20 ans, alors, c'est l'état d'esprit, qu'est-ce que c'est?
Bonjour Denis.
C'est avant tout montrer l'exemple, expliquer que l'éducation à l'environnement, à la nature, c'est quelque chose d'important, que ça doit se faire dans la joie et la bonne humeur, et que l'entreprise qui porte ces valeurs-là se doit d'être un petit peu cohérente et exemplaire, et c'est ce qu'on essaye de montrer depuis maintenant une vingtaine d'années.
Alors depuis 20 ans, en fait, vous vous dites, ok, les causes, bien sûr, on les connaît. Maintenant, comment pouvons-nous faire pour agir, et agir aussi de manière un peu ludique, et en commençant par le plus jeune âge, donc d'essayer d'attraper les gamins.
Exactement. Alors, on a plusieurs gammes de jeux, ça va de 3 à 103 ans, mais il est clair que plus tôt on les attrape, plus tôt on leur montre comment la vie elle est belle, comment elle mérite d'être vécue, comment elle mérite d'être respectée, mieux ça se passe après.
Alors je suis un petit garçon ou bien une petite fille, et j'ai entre les mains Définature. Qu'est-ce que c'est Définature? C'est un jeu de cartes.
Alors Définature, ce sont désormais une gamme de 38 jeux qui ont pour objectif de faire découvrir les espèces en voie de disparition, et c'est un véritable carton, parce qu'on en fait 350 000 cette année, on a vendu plus d'1,5 million depuis la création de cette gamme.
Oui.
La règle du jeu est tellement évidente, ça devient addictif, on découvre des animaux improbables.
Moi je veux des animaux, allez-y.
Par exemple, prenons l'ornithorynque, qui est un petit animal assez exceptionnel, puisque la caractéristique de pondre des œufs pour un mammifère, c'est quand même pas courant.
C'est
en plus, il a un bec de canard, donc on vous explique tout ça avec beaucoup d'humour. Et puis là, les caractéristiques, le poids, la taille, le nombre de petits à la naissance, et en face de lui, il va se retrouver avec un autre mammifère, on va dire l'éléphant, qui est plus connu, qui est beaucoup plus lourd, mais peut-être que l'éléphant a des caractéristiques moins importantes, par exemple le nombre de petits à la naissance, et du coup l'ornithorynque va se mettre à battre l'éléphant. Alors, quelque part, on se moque de savoir qui va gagner. L'important dans un jeu éducatif, c'est pas de savoir, c'est d'apprendre en s'amusant et pas de gagner. Donc, au fur et à mesure des parties, eh bien, on va découvrir toutes les caractéristiques des animaux d'Asie, d'Afrique, d'Europe, de la savane, des océans, de tout ce que vous voulez. En plus, les photos sont juste magnifiques, elles sont exceptionnelles,
exact.
On met beaucoup de temps à les sélectionner, et ça donne des produits de qualité qui font le bonheur des petits et des grands, parce que les parents sont très très heureux de leur offrir des jeux, entre guillemets, pas trop bête.
Alors pour vos 20 ans, donc un joli cadeau, vous venez d'obtenir donc les étoiles du jouet, et ceci dans 4 catégories. Et puis aussi, vous avez reçu un prix RSE, donc Agir contre l'exclusion. Racontez-nous, quand vous mettez votre entreprise en cohérence, que faites-vous principalement ?
On essaye d'avoir l'impact global le plus faible possible. On veut, nous, créer ce qu'on appelle la richesse globale, pas seulement la richesse financière, mais de la richesse sociale et écologique. Et donc, on va faire attention à nos produits. Tous nos produits sont labellisés FSC, Forest Stewardship Council. Toute notre fabrication a lieu en France, c'est une exception. Je pense qu'on est les seuls à fabriquer 100% de nos produits, et depuis 20 ans en France, dans une imprimerie dans la Drôme, qui était la seule à me suivre il y a 20 ans, quand j'avais pas de sous. Voilà, c'est les encres à base végétale, les chiffons on les jette pas, on les relave, on fait attention à l'impact CO2, aux colis qu'on envoie. Bioviva, ça veut dire vive la vie, on veut juste montrer l'exemple, encore une fois, dans la joie et la bonne humeur.
Jean-Thierry Winsel, ça vient comment ce genre d'idée? Vous-même, vous avez peut-être pas forcément les jeux qui allait bien quand vous étiez petit, mais à la fois ce mode de vie, cette envie d'être entrepreneur et de travailler en direction des enfants, c'est venu comment ?
Si un jour on m'avait dit que je serais chef d'entreprise d'une société d'édition de jeux, je l'aurais pas cru. En fait, c'est venu d'un constat. Moi, je suis passionné par le vivant, et j'aime tellement la vie, j'ai tellement de peine à la voir se dégrader, que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, et j'étais parti, parce que je suis ingénieur agronome, pour mettre en place des parcs nationaux dans le monde entier. J'en ai mis en place, et puis je me suis dit, c'est génial, je vais m'éclater, mais en fait, j'ai pas résolu les problèmes. Le problème étant le comportement humain, il faut qu'on change l'état d'esprit, il faut qu'on élève les niveaux de conscience, il faut qu'on donne envie. Le développement durable est d'abord désirable, et puis c'est la convivialité, quel bonheur de partager des moments ensemble. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'il n'y a pas mieux que le jeu pour véhiculer ce type de valeur. Le jeu est universel, chaque être humain commence son apprentissage dans la vie par le jeu, il faut lui redonner ses lettres de noblesse, on change le monde en jouant.
Jean-Thierry Winsel, donc de Bioviva, qui fête ses 20 ans. Ah, alors là, dans la haute, c'est un petit peu différent quand même comme ton. Tenez, on va parler de saumon.
Le saumon devient rouge et or, et il se transforme comme l'acteur. Et en peu de temps, comme l'acteur, il va jouer la vie et la mort, comme Hamlet. Quand Hamlet rentre, il sait que dans les 3 heures, il va vivre et mourir comme... la différence qu'il y a entre le théâtre et le cinéma, c'est qu'au théâtre, quand on est mort, on salue à la fin.
Voilà, c'était un extrait de Je suis un saumon par le comédien Philippe Avron, qui avait fait un très très beau spectacle en son temps. Saumon de l'Allier, saumon altier. saumon sauvage, eh bien ce n'est pas un saumon de gavage, mais plutôt effectivement d'élevage. On va pouvoir en parler avec vous, Laurent Chevalier. On va faire un petit point donc sur ces fameux saumons donc d'élevage.
Globalement, les choses se sont plutôt améliorées. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'on utilisait quand même moins de médicaments, qu'on utilisait moins d'antibiotiques de façon systématique. Donc de ce côté-là, on a un progrès. Ce qui a créé le doute de façon assez importante récemment, c'est l'enquête de 60 millions de consommateurs qui montrait que le saumon bio pouvait être plus pollué que le saumon conventionnel.
Oui.
Alors, il faut quand même voir que c'est sur un tout petit échantillon, c'est-à-dire que c'est 4 saumons bio qui ont été analysés, et qu'aujourd'hui, on voit une espèce d'approche qui dit, bah, regardez, le bio, c'est pas si bon que ça, etc.
Alors, ce qu'il faut donc, pour avoir un critère de saumon bio, donc, que l'on comprenne bien, c'est quoi? C'est du saumon où il n'y a pas d'antibiotiques? C'est un saumon qui a été élevé avec de la nourriture bio? Qu'est-ce que c'est?
Surtout, c'est au niveau de l'alimentation. Le problème aujourd'hui, c'est les filières d'approvisionnement des saumons bio, où finalement, on donne un peu plus de protéines d'origine animale, c'est-à-dire des farines de poisson sauvages, que dans les saumons conventionnels. Dans les saumons conventionnels, ils ont une alimentation plus végétale. Sur le saumon bio, plus animal, et finalement on s'aperçoit que on connaît pas toujours l'origine de ces poissons sauvages, et que certains peuvent être pollué, et que finalement, quand le saumon bio, enfin élevé en bio, va consommer ces produits-là,
d'accord,
eh bien, il peut y avoir des phénomènes de bioaccumulation par rapport à différentes substances, et notamment certains pesticides organochlorés. Mais je crois qu'il faut surtout pas surdimensionner le problème. Encore une fois, c'est sur un échantillon qui est très faible. Que la filière soit à revoir, ça c'est certain. Mais il faut aussi bien analyser les choses. On a trouvé un peu plus d'arsenic et de mercure dans les saumons bio, mais il faut voir un certain nombre d'éléments. Par exemple, est-ce que les saumons étaient un peu plus âgés? Dans quelles eaux elles évoluaient? Et puis, tous ces paramètres-là sont à prendre en compte, mais il faut savoir qu'il y a de toute façon un fond géochimique d'arsenic et de mercure au niveau des mers, et que nous avons les moyens de neutraliser une grande partie de ces substances-là. Donc c'est pas du tout surprenant qu'on en trouve un petit peu. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est quel est le bénéfice qu'il y a à consommer, par exemple, du saumon par rapport, entre guillemets, au risque. Le risque, il semble malgré tout assez limité. On peut pas tirer des plans sur la comète à partir de quelques échantillons, mais surtout, on s'est aperçu que l'on avait au niveau du cerveau une protéine qui s'appelle la BDNF.
Ah.
Alors la BDNF,
c'est la BNF, mais pas la
c'est le Brain Derived Neurotrophic Factor. En fait, c'est une protéine qui est tout à fait essentielle pour le cerveau, que l'on produit un petit peu, mais qui est plus produit lorsqu'on consomme des produits qui contiennent des acides gras oméga 3 venant notamment de la mer. Et cette protéine permet d'assurer un bon fonctionnement des neurones, un développement aussi du système cérébral. Et il faut bien avoir conscience qu'il existe ce qu'on appelle une plasticité cérébrale. Si on fait travailler son cerveau de façon régulière, eh bien, on va garder un certain nombre d'éléments cognitifs, et notamment au grand âge. Quand vous voyez aujourd'hui, par exemple, Valéry Giscard d'Estaing, qui a un discours tout à fait cohérent à 90 ans, eh bien, c'est quelque chose.
Il est toujours pro-libéral,
montre...
il n'y a pas de problème.
Non, mais ça, c'est autre chose.
Ah, pardon.
Mais en tout cas, il y a une cohérence dans son discours. Je ne dis pas qu'il est forcément il est bon, mais il y a une cohérence dans son discours. Et donc, il y a cette plasticité cérébrale qu'il faut entretenir, à la fois chez les jeunes et les moins jeunes, et celle-là, elle est entretenue grâce notamment à cette protéine. Donc, il y a plus d'avantages à consommer des poissons qui contiennent ces oméga 3. Alors, il n'y a pas que le saumon, il y a aussi la sardine, il y a aussi le maquereau, il y a le flétan, on a aussi les anchois. Donc, tous ces produits de la mer sont des produits qui sont intéressants pour le développement cérébral.
Alors d'abord, rappelez-nous d'où viennent ces saumons aujourd'hui.
Alors les producteurs, on en a un certain nombre en Norvège, on en a aussi en Écosse. Donc c'est quand même les deux pôles essentiels de production des saumons. On en a aussi dans le Pacifique, en Alaska. Alors, en Alaska, une autre pollution peut apparaître qui est celle de la radioactivité à la suite de Tchernobyl. Ce qu'on voit aujourd'hui de positif, c'est que l'aquaculture évolue de façon positive par rapport à l'utilisation d'un certain nombre de médicaments et de pesticides. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien. Après ça, il faut revoir un petit peu les filières d'approvisionnement en bio.
Bon, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est sûrement plus dangereux de respirer de l'air en ville que de bouffer du saumon à Noël.
Alors bon, je sais pas si on peut voir comme ça, mais il existe aussi des alternatives par rapport au saumon. Quand on aime bien le goût du saumon fumé, eh bien ce sont les truites fumées. Je voudrais souligner le grand développement que l'on a par rapport aux filières d'aquaculture en Aquitaine, avec des truites de très très bonne qualité, qui donnent en plus la texture, un petit peu le goût du saumon, et c'est quelque chose qui se développe et qui est vraiment très très intéressant.
Mais écoutez, on parlera du citron bio une autre fois pour accompagner tout cela. Un grand merci Laurent Chevalier, et puis la semaine prochaine on parlera du détox avant Noël. Au revoir Laurent.
À bientôt Denis.
Et qu'est-ce que nous avons dans la hotte aussi? Ah, moi j'ai craqué pour un album qui s'appelle « Tout va très bien, Madame la banquise ». Il est signé Dominique Dimet, qui s'intéresse à l'environnement depuis de très nombreuses années. Et en fait, elle reprend des mélodies de chansons qui nous parlent. Hein. Mais elle nous parle aussi du monde d'aujourd'hui avec cet album, on va dire, qui est entre colère. C'est un hymne à la vie, hein, et avant tout colère et douceur. Voilà, colère et douceur, c'est un hymne à la vie, donc il réunit, on va dire, toutes les générations. Ça nous appelle à réagir et à penser le monde un petit peu autrement. Bon, tout ceci, vous le savez, c'est ce que l'on fait dans cette émission. Enfin, on tente de le faire, vu les résultats merveilleux que nous avons partout. Donc, ce que je vous propose, c'est d'écouter donc Dominique Dimet avec quatre titres de cet album « Tout va très bien, Madame la banquise ».
Lundi matin, le monde, ses chefs, leurs ministères se sont réunis pour parler de la terre. Mais c'est le grand fouillis, tout le monde change d'avis. Puisque c'est ainsi, ils reviendront mardi. Mardi matin, le monde, ses chefs, leur ministère se sont réunis pour parler de la mer. Mais c'est le grand fouillis, tout le monde change d'avis. Puisque c'est ainsi, ils se voient mercredi. Mercredi matin, le monde, ses chefs, leur ministère se sont réunis parler de l'effet de serre. Mais c'est le grand fouillis, tout le monde change d'avis. Puisque c'est ainsi, ils reviendront jeudi. J'aime ma planète, savez-vous comment? J'aime comme elle est faite, avec la vie dedans.
J'aime.
Ces arbres centenaires.
J'aime.
Ces séquoias géants.
J'aime.
La fraîcheur des rivières. Les roses de printemps.
J'aime.
Ces oiseaux verts et rouges.
J'aime.
Le bleu des océans.
J'aime.
Ces petites fourmis qui bougent.
J'aime.
Le gris des éléphants. Tu as du tabac dans ta tabatière. Tu as du tabac, mais je n'en veux pas. T'en as du blond et du mentholé, en cigarette ou bien à rouler. Tu as du tabac dans ta tabatière, mais de ton tabac, moi je ne veux pas. J'ai vu le tigre, l'éléphant et la baleine. J'ai vu le tigre et l'éléphant danser.
J'ai vu le tigre, l'éléphant et la baleine. J'ai vu le tigre et l'éléphant danser.
Je les ai vus, oui, je les ai vus. Libres dans la nature, je les ai vus danser.
Je les ai vus, oui, je les ai vus.
Libres dans la nature, je les ai vus danser. Mais dans 10 ans, où seront-ils?
Mais dans 10 ans, où seront-ils?
Seront-ils enfermés dans les pages de nos livres? Ou bien resteront-ils pour toujours oubliés?
Seront-ils enfermés dans les pages de nos livres?
Ou bien resteront-ils pour toujours oubliés?
Dominique Dimet, donc un extrait de cet album « Tout va très bien, Madame la banquise ». Lundi matin, j'aime ma planète, j'ai vu le tigre, l'éléphant et la baleine, et tu as du tabac. Donc ce qui est intéressant, c'est comme dans la tulu, mon petit loup, moi j'aime bien les bouquins aussi, et comme là-dessus, la société, c'est pas exactement étanche avec le monde des enfants, donc oui, il faut bien sûr la part de rêve, c'est indispensable. Et puis aussi, quand même, parler un petit peu de choses de société, ça peut pas faire de mal, je dis ça à Henri Dess, parce que de temps en temps, bon. Et donc, bah, nous on va se retrouver tranquillement la semaine prochaine. Oula, oui, oui, ça sent gentiment la fin de cette émission. Il y aura d'autres choses dans la hotte. Hein. Il y a des éléments qu'on vous a pas passés. Je vous passerai un... on parlera des oiseaux aussi, avec 2017, une année avec les oiseaux. Il y aura qui? Ben, il y aura Marc Giraud qui va venir. Il y aura Frédéric Denry. Enfin bon, on va construire donc cette émission. Merci à David Federman et
Élise Christophe, qui était aujourd'hui à la technique, à Camille Blanès, à Lise Combe, qui a donc réalisé l'émission, Muriel Pérez, qui a choisi les disques, Anne Gouzon, qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour, le podcast, vous en avez l'habitude. Une petite insomnie, allez, entre 5h et 6h du matin, vous pourrez réécouter cette émission. La Tulu, mon petit loup, je vous l'ai dit, c'est à 19h54, ce sera après les petits bateaux. Et je vous souhaite de bien respirer. Ouais, en tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end.